Allô la Terre? Non, allô la technique? Hein? Ça marche ou ça marche pas, votre affaire?
Il arrive, il arrive.
Hein? Ah, c'est là-bas. Ah oui, c'est vrai que Fissa, il s'est cassé la jambe. Alors, foulez, 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 pardon. Un, deux, trois. Alléluia. Alléluia. Ça y est, vous m'entendez bien? Oh, sinon, je peux parler plus fort, hein, s'il faut. Hein? Dans le midi, on sait parler fort. Hein? On aime chanter dans la rue. À Dieppe, si je vais me balader en chantant dans la rue, on va tous me penser qu'il faut que je sois interné. Hein? Et à Carcassonne, tout le monde est content. Hein? On chante. Hein? Voilà. Alors, nous sommes très réjouis en tant que frères et sœurs, Église, après la journée d'hier, n'est-ce pas? Je parlais avec certaines personnes avant que nous ayons le chiffre de la police. Et puis, on discutait comme il y en a qui disaient 10 000, d'autres 15 000. Moi, j'avais osé penser 20 000, mais j'ai dit, si j'étais la CGT, je dirais 100 000. Hein? Voilà. Et puis finalement, eh bien, la police, alors en principe, ils rabaissent plutôt. Donc, ils ont dit qu'on était 21 000, c'est pas mal, n'est-ce pas? C'était un beau moment de louange aussi dans les rues de Paris. Et notre ville de Paris en a bien besoin. Il faut beaucoup prier. Je pensais, c'est pas encore la prédication, hein, là c'est pour vous préparer à écouter. Hein. Je pensais, quand on réfléchit, quels sont les ennemis que nous avons? Trop souvent, moi j'ai détecté deux grands ennemis que l'Église rencontre et rencontrera à l'avenir. La première, c'est facile à dire, c'est l'islam. La deuxième, elle est un peu moins facile à dire, parce qu'elle pourrait être mal interprétée, mais moi je vais vous dire, le deuxième ennemi de l'Église, c'est les derniers votes à notre Assemblée nationale, qui veut imposer par la loi qu'on tue des enfants dans le ventre de leur mère, et quand on arrive à un certain âge, en mettant l'avortement obligatoire, et à un certain âge, quand les gens ne sont plus... commencent à coûter cher à la sécu, on va les aider à se suicider. Et on dit, voilà les grandes choses, belles choses que la République... et on voudrait même le conseiller à tous les pays d'Europe. Et vous savez, ça, c'est l'esprit de l'Antichrist qui monte et qui monte. Mais vous savez, chers frères et sœurs, c'est pour cela que je dis que nous devons prier pour notre pays, parce que la Bible dit que nous devons prier pour notre pays afin que nous puissions évangéliser en toute liberté. Lorsque la parole de Dieu est très claire, lorsque l'on commence dans la direction d'un pays à dire mal ce qui est bien et bien ce qui est mal selon la parole de Dieu, on libère les démons. Et maintenant, nous voyons que les démons sont en train de faire leur œuvre. Chez nous, avec toute cette violence, la Nouvelle-Calédonie. Et vous savez, ça va monter, ça va monter. Et là, je ne suis pas en train de vouloir donner un regard pessimiste, je suis seulement en train de dire des choses que nous dit l'Apocalypse et tout cela. La violence augmentera, augmentera, augmentera. Et c'est là que de plus en plus de personnes se tourneront vers Jésus. L'antisémitisme montera, montera, on peut dire tous les beaux discours qu'on voudra. Zacharie 12 et Zacharie 14 nous montrent un jour toutes les nations monteront contre Jérusalem. Ça s'est bien enclenché avec l'ONU. Hein? Et voilà. Nous sommes dans cette situation. Et là, l'Église est la lumière qui va briller dans les ténèbres. Et l'Église doit être consciente qu'elle a une mission pour combattre l'ennemi. Alors, hier, nous n'avons pas intéressé, ni même pas FR3, et tant mieux. Parce que quand ils viennent pour dire du mal de nous, ils préfèrent qu'ils restent chez eux. Hein? Mais nous avons eu plaisir à être en communion avec notre Seigneur. Des âmes se sont données à Christ. Nous attendons des témoignages de voir des gens qui auront été guéris par la prière devant ce podium où nous étions tous rassemblés. Chers frères et sœurs, l'Église a des beaux jours devant elle. Et pour terminer, j'aimerais dire, nous devons aussi apprécier la liberté que nous avons. Alors, nous n'avons pas mobilisé une dizaine de cars, de bus, de CRS. Hein ? Il y avait 4 ou 5 policiers qui se battaient en duel, presque on allait dire, et qui étaient là pour regarder comment nous étions des braves. Pas de casse, pas de blasphème, pas de mécontentement. Nous sommes allés dans la rue parce que nous voulions dire à tout le monde « Je suis content, Jésus m'a sauvé !» Voilà, ça c'était... Et pendant ce temps, et c'est pour cela que je vous dis, nous devons faire attention, au Pakistan, un chrétien a été massacré pour accusé de blasphème et son corps a été incendié en plein public, pendant que nous étions protégés par la police. Chers frères et sœurs, prions pour notre nation. Notre pays a besoin de nos prières. Mais, chers frères et sœurs, et là, nous arrivons maintenant à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, après, quand on arrive à Pentecôte, on ne peut pas se retenir de parler de Pentecôte. Alors j'ai bien écouté ce qu'a dit Joël dimanche dernier, parce que je me suis dit, j'avais à cœur, j'ai reçu un message sur Pentecôte, comme je ne l'ai encore jamais prêché à Pentecôte. Mais je me suis dit, je vais quand même bien veiller à ne pas répéter. Et effectivement, je vois que j'ai une inspiration, me semble-t-il. Je me sens inspiré. Alors maintenant, à vous de juger à la fin. À la sortie, vous pourrez dire, bon, 2 sur 10. Hein, ou bien... voilà. Hein. Ça m'arrive parfois. Vous savez, quand j'ai prêché, des fois... J'ai l'impression d'avoir été nul, et puis ma femme me dit « Ah, tiens, c'était pas mal ce matin. » Puis des fois, j'avais l'impression d'avoir été... Puis elle me dit « Oh, Francis... » Donc, vous savez, la Bible dit que Dieu donnera une aide semblable à lui pour l'homme, le premier homme. Eh bien, moi, je fais partie de ces pauvres bonhommes qui ont besoin d'une aide semblable à moi. Et elle est toujours là depuis 45 ans, et elle tient le choc, hein. C'est peut-être une grande grâce, voilà. Voilà, alors donc, je voudrais, là maintenant, parler de Pentecôte. Alors, d'abord, donner un peu une vision, un petit peu, de Pentecôte en 3 points. Quand on pense à ça, à Pentecôte, je le mettrai comme cela sur pied. Premièrement, la promesse de Pentecôte. Nous lirons Joël 2, 28 et acte 1 à 4. Ensuite, il y a l'événement de Pentecôte. Nous verrons ça lorsque les langues sont tombées. Et troisièmement, l'expérience de Pentecôte. Alors, je vous dis tout de suite, les 2 premiers points sont pour le décor, hein, pour mettre les choses en place. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est ce que le Seigneur m'a inspiré. Je sens que l'Église a besoin de ça. Nous devons bien réfléchir à l'expérience de Pentecôte et vérifier que dans notre vie de tous les jours, nous vivons vraiment avec l'expérience de Pentecôte. Et que ce ne soit pas seulement une doctrine sur laquelle on se dispute, on débat, est-ce qu'il faut ci, est-ce qu'il faut ça, etc. Voilà. Donc, j'aimerais, donc, pour commencer, donc, lire dans le prophète Joël, parce qu'il me semble que c'est très important de ce que dit Joël, parce que c'est Pierre qui va citer ce verset. Dans le livre de Joël, chapitre 2, et verset 28, nous lisons. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. À ce moment-là, il était très utile que Dieu dise que ce n'est pas seulement les prophètes professionnels qui vont prophétiser, mais qu'il va y avoir une effusion du Saint-Esprit qui va toucher tout le monde. Les fils, les filles, les vieillards, et même les esclaves. Parce qu'on dit ça bien, nous, les serviteurs et les servantes, hein, ça fait bien, serviteurs et servantes. Hein, mais c'est les esclaves. Et là, ici, maintenant, dans cette prophétie, Joël annonce quand Pentecôte viendra. Alors, c'est moi qui dis Pentecôte. Hein, lui, il dit quand le Saint-Esprit sera répandu. Tout le monde sera à égalité dans l'inspiration et la réception du Saint-Esprit. Donc, chers frères et sœurs, en ce dimanche matin, tout le monde est bienvenu. Et Jésus reprendra encore cette idée lorsqu'il dit, nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 et suivant, hein, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puis les disciples posent une question hors sujet sur le royaume d'Israël, que Jésus leur dit « ça ne vous regarde pas », au verset 6 et 7, et ensuite, il revient Jésus au sujet « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Boulogne, Paris-Centre, toute la France, le Portugal, on va pas commencer à dire tous les pays là, hein. Le sud-ouest de la France, entre Carcassonne et Castelnaudary, n'est-ce pas, de là où je viens. Et puis après, ça ira en Afrique, en Asie, jusqu'à la fin. Alléluia. Et l'Église aujourd'hui, elle existe dans tous ces endroits. Et elle progresse, elle progresse. Voilà, donc ça c'était pour la promesse. Alors, il y a tous les versets donc je ne vais pas que je pourrais citer dans Jean 14 la venue du je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous dans la venue du Saint-Esprit qui remplacera Jésus sur la terre. Jean 15 26, la venue de l'Esprit pour nous aider à témoigner. Quand sera venu le consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Puis Jean 16, tout ça c'est dans les promesses, n'est-ce pas? La venue du Saint-Esprit pour convaincre. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde. Jésus dit à ses disciples, parce qu'eux, ils voulaient rester avec Jésus, c'était pratique. Marc, je m'imagine ça. Moi, j'aurais bien aimé être avec Jésus, un de douze qui reste avec Jésus jusqu'à la mort. Hein? Et Jésus dit, ah, vous êtes en train de... Hein? Je crois que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça aussi, hein? Bon, trois ou quatre personnes, bon, ça va. Donc, je vois que hein, j'ai quelques amis dans mon club. Hein? Voilà. Et puis, le Seigneur dit, maintenant, je vais envoyer Pentecôte pour que tout le monde... Et ça sera un avantage. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'événement de Pentecôte, je vais seulement le citer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes sur les autres, et se posèrent sur chacun d'eux, sur chacun des membres de la communauté chrétienne du point du jour. C'est écrit. Hein? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent tous à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, après, il y a... la représentation mondiale des gens qui étaient présents, et pour cause, Pentecôte, parce que Saint Joël a un peu mentionné, Dieu a utilisé des fêtes juives qui existaient, n'est-ce pas? Pâques, qui est la fête de Pessah, la fête de la délivrance de l'Égypte pour aller dans la terre promise. À Pâques, nous avons été délivrés de l'esclavage du péché pour être conduits dans la liberté du Saint-Esprit. Et Pentecôte, on fêtait les prémices des récoltes. Et là, on venait du monde entier, vous savez. Vous aurez un de ces quatre. Après l'Assemblée générale, je vais vous amener un sujet sur la dîme. Je vais être impopulaire après cette prédication, et gloire à Dieu. préparez vos tomates et vos secouvées, si vous voulez, pour ce jour-là. Hein. Mais là, à Pentecôte, Il y a des gens de toute l'Europe, hein, ou même des Arabes, tout, il y avait tout ça. Hein. Vous connaissez le passage, je ne vais pas le relire. Qui étaient venus, pourquoi? Parce qu'on avait commencé la récolte et c'était une bonne année. Alors, on amenait au Seigneur les prémices. Avant de décommencer à dépenser son salaire, ils amenaient les plus beaux fruits qui venaient d'arriver, hein, les primeurs, pour amener d'abord dire merci à Dieu. Alors évidemment, ils étaient peut-être motivés. Ils étaient très motivés. Il faut les comprendre. C'est qu'à ce moment-là, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de motopompe. Et quand il ne pleuvait pas, on ne pouvait pas arroser. Et la récolte s'avérait maigre. Alors, comme il y avait la promesse de Dieu, si vous apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel, j'ouvrirai les écluses des cieux. Ils savaient, ces gens qui sont rassemblés à Pentecôte. Il vaut mieux aller dire merci à Jésus, comme ça on est sûr de remplir nos greniers. Ah, ben allez, je fais une petite encroche à mon futur message. Il vaut mieux commencer par donner sa dîme pour avoir la prospérité financière. Hop, je referme vite ma parenthèse, parce que c'est désagréable, n'est-ce pas? Et maintenant, je voudrais, après avoir dit cela, n'est-ce pas, donc nous avons vu donc la promesse de Pentecôte, là je viens de vous parler de l'événement de Pentecôte, et le centre de mon message sera l'expérience de Pentecôte. Alors, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Vous le savez, ça. Quand est-ce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit? Ne me dites pas à Pentecôte. Sinon, je vais dire, il faut que vous lisiez votre Bible. Alors, puisque je ne vous laisse pas le temps de répondre, c'est dans Jean 20, 22, n'est-ce pas? Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous recevez le Saint-Esprit et voici la mission. Et malgré cela, lorsque Jésus est ressuscité, parce que là, c'était encore, hein, après qu'il soit montré aux disciples et qu'il est parti, il leur a dit, vous restez encore à Jérusalem parce que le Père a promis plus. Ma sœur, mon frère, ça c'est une des choses que j'aimerais que tu retiennes ce matin de ce message. L'expérience du Saint-Esprit que tu as faite, il y a plus. Quelques amens, hein? Ma sœur, mon frère, nous sommes des chrétiens qui devons chercher à voir plus de manifestations de l'Esprit. J'avais des textos en échange avec un chrétien de la région parisienne. J'étais dans son église dimanche dernier, à Noisy-le-Grand, là, dans la banlieue, tout ça. Et il me dit, mais oui, mais... Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas très pour le charismatisme. Hein? Bon. Mais c'est quand même un homme que Jésus aime et qui aime Jésus. Il me dit, oui, mais moi, je ne vois pas beaucoup de guérison miraculeuse, de miracles dans l'Église et tout cela. Quand il m'a écrit ça, je me suis dit, en fait, c'est vrai, on n'en voit pas beaucoup. C'est pour ça que je vous invite, quand le Seigneur intervient dans votre vie, au niveau de la santé, venez témoigner, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Mais c'est vrai aussi, hier, par exemple, on a prié la marche pour Jésus, quand il a prié pour les malades, il y avait juste à ma droite un handicapé. Je pense qu'il devait avoir une myopathie, la manière dont il était. Et j'ai vu, quand on a prié pour les malades, et qu'il a dit, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. J'ai vu cet handicapé essayer de... Hein, il avait la main paralysée comme ça. Et il était... Et je me suis dit, Seigneur, c'est vrai ce qu'a dit mon frère. Pourquoi lui ne se lève pas? Et je vais vous dire, chers frères et sœurs, j'ai dit à ce frère... T'as raison. Moi aussi, je voudrais voir plus de miracles. Mais je continue à baser ma foi sur la promesse de la parole de Dieu qui dit « Vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, vos vies seront transformées » que c'est ce que je vis aujourd'hui. Parce que ma foi, elle n'est pas fondée sur mon expérience aujourd'hui, elle est fondée sur ce que dit ma Bible. Amen. Et c'est important que nous voyions cela. Le témoignage de notre frère, là, concernant justement le malheur, c'est le psalmiste qui dit le malheur atteint souvent le juste. Le juste, eh oui. Même les chrétiens, désolé, chers frères et sœurs, je ne peux pas vous promettre problème zéro à l'avenir, je ne peux pas vous promettre que tout ira bien. Non, je ne peux pas. Mais je peux vous promettre une chose. Le Seigneur relève toujours. Tôt ou tard, le Seigneur relève. Alléluia. Moi, je pense souvent à ça avec notre deuxième fils, Michael, qui nous a fait toutes les misères possibles, fumer le joint, je vous ai déjà dit, j'ai dû le chercher, on était en pleine évangélisation à Pâques 2000 avec Carlos Anacondia, le téléphone sonne à 6h du matin, monsieur Fister, oui, venez chercher votre fils, il est en garde à vue dans le commissariat du 5e, etc. J'étais régulièrement à la CPE parce qu'il était absent, alors il avait trouvé le truc, hein. Le matin, il partait parce qu'on veillait à ça. Mais après, il avait envie d'aller faire des bêtises avec ses copains. Donc à la pause, après la récréation, quand on était 1 minute ou 30 secondes, 1 minute en retard, hop, on ne pouvait plus rentrer dans la classe. Le professeur envoyait l'élève, bon, et puis on avait un mot d'absence. Alors je me rappelle, je suis allé voir quand j'étais convoqué chez la principale, j'ai dit, mais attendez, vous ne pouvez pas faire qu'il rentre à l'école après la pause. Ah ben non, ils se sont pas. Évidemment, il était en première, donc c'est pas des gamins. Non, non, ben, j'ai dit, mais attendez, ben moi je vais venir alors. Je vais venir le faire rentrer, mon fils, à coup de pied derrière. Oh non, monsieur Fister, mais vous n'avez pas le droit. J'ai dit, mais alors, hein? Et alors? Eh bien, ben non. Oh voilà, vous parlez avec lui, et puis s'il n'a pas obéi, nous on écrit un mot et vous vous débrouillez avec lui. Et voilà. D'ailleurs, vous savez, c'est un grand problème aujourd'hui avec l'éducation des enfants. Parce que à la maison, vous apprenez à vos enfants de respecter Dieu, de respecter Jésus, de respecter Mohammed et tout ce que vous voudrez. Puis à l'école, on dit, mais non, t'as le droit d'écrire n'importe quoi, même des obscénités sur Jésus ou Mohammed. Et qui va-t-il croire, mon adolescent, là, qui est en seconde ou en première, qui est en pleine crise, qui n'a envie que de fumer le joint et qui a envie de tout balancer par-dessus bord, qui va-t-il croire? Ça, moi, je prie souvent pour ça. Parce que je dis, il y a beaucoup de parents qui n'assurent pas. Ça, c'est vrai. Mais quand on veut assurer, moi, je suis un de ceux-là, on est démunis. Parce que on dit à votre fils, c'est, Dieu n'a pas créé. Même une fois que mon fils était en sixième, Timothée, le plus jeune, je regarde un peu ce qu'il faisait. Dans le cours d'histoire, il faisait les Hébreux. Et il a dû écrire « Dieu est méchant et jaloux ». La Bible semble dire ça. Ah, je dis ça, je ne laisse pas passer. Je pris rendez-vous avec la prof. Et puis, elle me dit « Mais c'est quand même ce que disent les textes ». J'ai dit « Oui, madame, ce que disent les textes disent ça. Mais moi, je ne veux pas que vous enseigniez à mon fils que Dieu est méchant et jaloux. » Parce que là, pour le coup, dans cet effet, vous êtes à côté de vos blagues, vous devriez réfléchir un peu plus. C'était agressif, hein. Vous devriez réfléchir un peu plus. C'est pas Dieu qui est méchant et jaloux. Il a défendu les faibles Hébreux qui étaient esclaves devant la grande armée d'Égypte. Il les a fait se noyer pour pas qu'ils aillent les tuer. Et vous dites ça que c'est de la jalousie et de la méchanceté. Elle est où la méchanceté? Bon, alors là. Bon, si c'est ça, tu peux enlever ça de ton cahier, Timothée. Ça. Bon, allez, je vous ai raconté mes petites histoires pour vous réveiller, là. Hein. Revenons à nos moutons. L'expérience de Pentecôte. Alors, c'est un sujet vaste. Pas que j'oublie le temps. Je vais essayer de ne pas être trop long pour parler de cette expérience de Pentecôte. D'abord, nous allons voir ce qui s'est passé à Pentecôte. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler en langue. Première expérience de Pentecôte, le parler en langue. Le parler en langue qui est important. Alors, je suis en train de chercher mes notes, là, parce que je me suis un peu... Dans 1 Corinthiens 14... Est-ce que j'ai ça? Bon, Alors, dans 1 Corinthiens 14, nous allons lire quelques versets sur cette expérience de Pentecôte que devraient vivre tous les chrétiens. Même si certains pensent que on pourrait voir les choses autrement. Mais nous lisons donc dans 1 Corinthiens 14, j'arrive pas à croire que je ne l'ai pas bien noté. Non, je ne l'ai pas. Alors, en effet, 1 Corinthiens 14, 1. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Après, il dira, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, et les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui s'édifie lui-même. On va s'arrêter là. Hein. Je désire que vous parliez tous en langue. Au verset 14, du chapitre 14. « Si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Que ferais-je donc ? Eh bien, je prierai par l'esprit, ce qui veut dire en langue, entopnomati, hein, dans l'esprit, je parle en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai en langue, mais je chanterai aussi par l'intelligence. » Alors. Ici, évidemment, dans l'Épître aux Corinthiens, c'est toujours difficile de faire l'exège parce que l'Épître aux Corinthiens n'est pas un exposé dogmatique comme l'est l'Épître aux Romains. L'Épître aux Corinthiens, c'est on corrige des dérapages qu'il y avait dans l'Église de Corinthe qui étaient nombreux. Et en plus, certains ne sont pas nommés. Certains, Paul dit, je vous pousse concernant la région, je vous dirai quand je viendrai, etc. Donc l'exégèse de l'Épître aux Corinthiens n'est pas simple. Mais ici, nous avons quelques déclarations qui sont claires. Et une des premières choses, c'est, des premiers événements, c'est que nous devrions, que l'expérience de Pentecôte, c'est ils se mirent tous à parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est pas un diplôme qu'on met là, c'est pas pour faire de la provocation lorsqu'on va dans une église où les gens n'enseignent pas ces choses, ce n'est pas non plus pour aller faire je ne sais pas quoi, c'est une façon de prier surnaturelle. C'est une façon de prier qui dépasse notre intelligence. Paul dit, personne ne le comprend. Certains exégètes pensent, personne veut dire que le diable non plus ne comprend pas. C'est pour cela que lorsque vous avez des problèmes graves, priez plus en langue qu'avec l'intelligence. Parce que des fois, avec l'intelligence, on veut donner des ordres à Dieu pour des choses qu'il ne veut pas faire. Vous savez, j'ai remarqué dans les prières, on veut forcer à Dieu à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Alors moi, je vais vous dire, c'est bien de dire au Seigneur ce que vous pensez, parce que le Seigneur aime aussi entendre ce qu'on pense. Mais je vais vous dire, la prière qui va vraiment aider dans le problème, c'est celle que votre esprit dira en langue et que votre intelligence, hélas pour vous, le QI n'est pas assez important, assez grand pour pouvoir comprendre ce que disent les langues. C'est peut-être la langue des anges, on ne sait pas. Mais et je vous dirais, chers frères et sœurs, c'est très important à mon avis. L'expérience de Pentecôte, ça commence avec parler en langue. Alors après, il y a aussi le deuxième, la prophétie. Alors c'est intéressant parce que Joël, il ne parle pas du parler en langue, par contre il parle de la prophétie. C'est-à-dire, c'est intéressant que Pierre, lorsque cette expérience vient, intéressant aussi, ils sont enfermés dans la chambre haute. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient tous peur, nous allons encore le voir. Les disciples, ils avaient peur, ils se cachaient. Et quand est venu le Saint-Esprit, au lieu de faire comme nous, on ferme les volets, on ferme les rideaux pour que personne n'entende, n'est-ce pas ? Ils sont sortis sur la terrasse pour hurler les bénédictions, les merveilles de Dieu, comme disent les auditeurs. Alléluia. Et donc, on voit que finalement, le parler en langue transforme toute une crainte qui était en eux, toute une peur qui était en eux, et inspire les merveilles de Dieu. Et c'est pour cela que je vous dis, il faut parler en langue. Notre passage dans l'Épître aux Éphésiens dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. » Parce que souvent, quand on s'entretient les uns les autres, c'est pour dire quelque chose de négatif. J'espère que ce matin, vous ne direz pas, oh, « ben, le prédicateur, ce matin, la prédication, voilà. » Non, je plaisante là. Mais en fait, c'est ça qui est important. C'est qu'on doit savoir que lorsqu'on est inspiré par le parler en langue, on dit des choses positives. Et vous savez, si vous commencez comme ça, l'onction va aussi venir sur nos pensées. L'expérience de Pentecôte, c'est que l'action du Saint-Esprit en puissance qui agit en nous, que nous recevons au travers du parler en langue, va modifier notre façon de penser, va modifier notre déprime ou toute notre agressivité. On a besoin tous, les uns et les autres, toujours à nouveau, de guérir. Tout le monde est contrarié, a été blessé un jour. Qui n'a jamais été blessé ici dans cette noble assemblée? Venez me donner la recette, je vous la prends tout de suite. Alors maintenant, je vais poser une deuxième question embarrassante. Qui n'a pas surmonté ses blessures? Non, pas de main levée, je ne veux pas savoir. Mais il faut seulement prendre conscience. Et qui a surmonté toutes ses blessures et ses frustrations? Eh bien, moi, je vais vous dire celui qui parle au moins un quart d'heure en langue par jour. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ça, par contre. Et pour aller plus loin dans l'expérience de Pentecôte, je voudrais prendre justement l'exemple de Pierre. Alors, Pierre, c'est vraiment l'exemple de l'expérience de Pentecôte. Nous lisons dans Matthieu 16 que Pierre, il pouvait passer de l'onction au diabolique d'un revers de la main. Vous savez ce que je veux dire par là? Ou est-ce que vous avez encore... Alors, je vais vous le dire. Matthieu 16. Matthieu 16, verset... verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples... « Qui suis-je, au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie, et ou l'un des prophètes. » Ça, c'est courant. Hein? Même dans l'Église, parfois, on dit, on discutaille. Hein? Simon-Pierre leur dit, Jésus leur dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, Simon-Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et ici, cette citation, je voudrais la connecter à l'expérience de Pentecôte. L'expérience de Pentecôte, c'est qu'on est inspiré et que notre vie, notre façon de nous comporter n'est pas inspirée par la chair et le sang, dont je vous ai dit tout à l'heure, nous avons tous été blessés, mais par la manifestation de l'Esprit en nous. Et j'aimerais, chers frères et sœurs, que vous repartiez de ce culte en pensant, il faut que le Saint-Esprit agisse plus dans mes pensées et dans ma vie et dans tout mon être. Et après, Jésus donne dans fait la déclaration, c'est toi qui ouvriras le royaume de l'Église, hein, je donnerai les clés. Et Pierre est tellement content parce qu'il a reçu un compliment de Jésus. C'est pas rien, un compliment de Jésus quand même. Hein. Et là, nous voyons notre Pierre, pas baptisé du Saint-Esprit, avant Pentecôte. Toujours dans le chapitre 16, verset 21. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus est en train de dire, voilà, maintenant, le salut des âmes va être accompli. Je vais payer le prix dont vous avez besoin pour être sauvés. Et Pierre, qui pourtant avait eu un moment spirituel. Que dit-il ici? Pierre dit à Jésus, attends, il faut que je te dise quelque chose. Jésus, dis ce que tu viens de dire là. À Dieu ne plaise. C'est très spirituel. À Dieu ne plaise, s'il vous plaît. Hein, c'est pas... Hein, c'est pas rien. À Dieu ne plaise, Seigneur. Ça ne peut pas t'arriver. Et là, qu'est-ce qu'il dit Jésus à Pierre ? Va de rétro, Satanas. Hein ? Arrière de moi, Satan. Vous voyez ? Et ici, il dit, Jésus dit à Pierre, tu es Satan. C'est grave, ça. Mais pourquoi Jésus dit-il cela ? Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Et ici, nous avons un premier exemple de Pierre, nous verrons après la suite, où les pensées des hommes ont pris la place des pensées de Dieu. Chers frères et sœurs, l'expérience de Pentecôte nous libère de ça. Que nous mettions la pensée des hommes à la place de la pensée de Dieu. Puis, avant de parler du bon côté de Pierre, parce qu'après, il y a un avant. Et là, on est toujours dans l'avant Pentecôte. Hein. Dans Jean 18. Aïe, aïe, aïe. Dans Jean 18. Qu'est-ce qu'il a encore fait, notre Pierre, hein? Jean 18, verset 25. 25 à 27. Pierre suit de loin Jésus. L'erreur de Pierre, quand Jésus a été arrêté, c'est de le suivre de loin. Quand on suit Jésus de loin, il y a danger. Et il rencontre des gens qui lui disent « Ah, toi aussi tu fais partie de cela ». Et au verset 27, il dit « Pierre le nia de nouveau ». Et le coq chanta. À plusieurs reprises, Pierre dit « Non, je ne connais pas cet homme ». Il a peur. Jean 21. Alors là, pourtant, il a vu Jésus ressuscité, là. Et qu'est-ce qui nous fait comme déprime, là, encore, notre cher Pierre, hein? Eh bien, dans le chapitre 21, verset 3, Simon-Pierre dit aux disciples, « Je vais à la pêche. » Et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Attends, mais Pierre et les 12 disciples avaient une mission. Il avait été missionné par Jésus. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Et voilà que maintenant, Jésus est ressuscité. Et au lieu de dire, bon, maintenant, on commence la mission, il dit, bon, maintenant j'ai compris, hein, on a besoin du casse-croûte à midi, je vais à la pêche. D'ailleurs, pour l'histoire, cette sortie de pêche n'aura pas été fructueuse. Mais il entraîne avec lui. Ça, c'est le Pierre avant Pentecôte. Alors je m'arrête là, hein, parce qu'on pourrait encore en citer. Hein. Je ne cite pas non plus les disciples qui, à un moment donné, il y en a un qui dit « Moi, j'aimerais bien à la droite et à la gauche. Un aimerait être le ministre de ministre des Finances et l'autre le ministre de l'Intérieur dans le futur royaume de Dieu. Hein. » Et qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce passage ? Les autres disciples du bon sens, ils ont du toupet. Et ils étaient en colère après, là. Vous savez, un petit peu, Jésus, il en a eu du mal avec ses disciples. Hein. Il n'y a pas qu'avec nous qu'il a du mal. Il en a déjà eu il y a 2000 ans. Ça ne nous console peut-être pas, mais c'est quand même comme ça. Hein. Hein. Il y en a deux qui veulent être les meilleurs postes et les autres qui se mettent en colère. Hey, je m'imagine, Jésus dirait, calmez-vous, les frères. Hein, là, voilà. Mais vous savez, dans l'Église, ça se passe un peu aussi comme ça. Hein. Bon, je m'arrête là parce que... Maintenant, je voudrais venir à Pierre après Pentecôte parce que c'est en fait tout le sens de ce message, c'est que nous voyons qu'il y a une différence avant Pentecôte et après Pentecôte, déjà dans la vie des disciples. Et donc, nous sommes donc maintenant de nouveau à ce passage-là où ils se mirent à parler en langue et que tout le monde était donné. Il y a tous les pays, comme je vous le disais tout à l'heure, Crétois, Arabes, Juifs, prosélytes, etc. Hein. Et comment les entendons-nous raconter les merveilles de Dieu ? Chers frères et sœurs, comment les gens autour de nous nous entendent raconter les merveilles de Dieu ? Ne passez pas votre temps à dire tout ce qui vous a déçu dans l'Église. Ne passez pas votre temps à dire tout ce qui vous énerve chez la sœur un tel ou le frère un tel. Passez pas votre temps à dire, oh, le pasteur, vous en avez deux en plus, donc vous avez double possibilité d'être mécontent, n'est-ce pas ? Passez pas votre temps à ça. Passez votre temps à dire les merveilles de Dieu. Et là, donc, les gens sont là, et puis il y en a qui disent, ah, ils sont pleins de vin doux. Ils sont allés en vacances au Portugal, ils ont ramené un petit baril hein, de Porto. Hein. J'espère que mes frères et mes sœurs portugaises seront contentes que je fasse de la publicité pour le Porto. Vous pouvez toujours m'en amener les bouteilles. Non. Et là arrive le moment de l'après-Pentecôte qui me semble important que nous en soyons conscients, chers frères et sœurs. À ce moment-là, où il y a, on se moque, on est étonné, n'oublions pas qu'il y a les chefs religieux qui sont derrière, qui sont en train aussi de vouloir faire du mal. N'oublions pas que les disciples, quand ils étaient à la chambre haute, ils étaient enfermés, ils avaient peur. Hein. N'oublions pas tout ça, on est dans un contexte tendu. Et là, on a un nouveau Pierre. Il ne va pas se cacher. Il n'a plus peur. Et là, il nous a dit, alors Pierre se présenta. C'est fini le temps où il dit, non, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet homme. Chers frères et sœurs, il y a un avant et après. Et j'aimerais aussi que vous réfléchissiez dans votre vie personnelle. Quand y a-t-il un avant et après ? Et vous savez, je vais vous dire, cet avant et après, il n'est pas un point d'histoire. Il y aura toujours un avant et après, tout le long de notre vie. Il y aura un avant où nous avons failli, nous verrons après pourquoi, et au moment où nous avons pris la victoire. Et ici, nous sommes dans l'après. Alors, Pierre se lève et il leur dit, mais vous n'y avez... Non, arrêtez de dire des bêtises. Hommes juifs, ces gens... Ils ne sont pas allés chercher du vin au Portugal. Ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Il n'est que 9h du matin. Quand même, on était quand même venu offrir les dîmes, les prémices. On est venu louer le Seigneur. On est venu l'adorer. L'Église qui, après le repas de l'après-midi, voilà. Non. C'est le matin, au moment du culte, au moment de la louange. Ils ne sont pas. Mais, et là arrive... Je trouve cet après-Pentecôte qui me semble chez Pierre tellement puissant. Quand on compare avec ce que je vous ai dit, lorsque Jésus a dit « Je vais aller payer le prix à Jérusalem », qui dit « Dieu ne plaise ». Là, Pierre se transforme en interprète de la parole prophétique. Et il dit « Mais c'est ce qui était écrit par le prophète Joël ». Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Ça ressemble à quoi, ça, chers frères et sœurs, ce que je viens de vous lire ? Est-ce que ce n'est pas le problème climatique dont nous parlent nos scientifiques du 21e siècle ? Joël l'a vu. Pierre, après Pentecôte, le comprend, l'explique. Nous vivons un temps merveilleux en tant qu'Église, chers frères et sœurs. Nous sommes en plein dans l'accomplissement de la parole prophétique. J'en parlais au début un petit peu. Et nous sommes maintenant. Et il dit, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alléluia, chère Église, voilà ce qui nous attend, le jour grand et glorieux de l'arrivée du Seigneur Jésus qui va revenir nous chercher. Alléluia. Ça, c'est le Pierre d'après Pentecôte. À partir du moment où Pentecôte est passé par là, Pierre parle en langue. Reçoit la révélation, explique la parole prophétique et devient courageux comme il ne l'était pas quelques jours auparavant. Et c'est ce miracle de la vie transformée de Pierre qui me semble, dans Pentecôte, importante pour nous aujourd'hui, Église. Nous devons recevoir cette puissance. Et parce que Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance. Ma sœur, mon frère, tu as reçu une puissance. Alors maintenant, je voudrais terminer avec quelques exemples de ce que la Bible nous donne concernant cette vie transformée. Parce que chers frères et sœurs, c'est vrai, chacune et chacun d'entre nous se bat contre un ou plusieurs péchés. Pas tous le même, mais nous avons tous ce combat avec le péché. Et ça, ce n'est pas nouveau. Romains 7, l'apôtre Paul dit, à partir du verset 15, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché habite en moi. Ah, je me suis retenu, mais je vais le dire quand même. Le péché habite en toi. Et là, vous savez, connaissez la phrase, hein, quand on dit comme ça à quelqu'un, toi, il y a un bout de doigt qui monte vers Dieu, un autre vers la personne, et il y en a trois qui montent vers moi. Donc c'est dangereux de faire ça. Mais je voulais le faire quand même. Le péché habite en nous. C'est pour cela que nous avons besoin de l'expérience de Pentecôte. Le monde veut faire ça avec des thérapies, vous savez. Quand on entend là, c'est pour délivrer des gens du fanatisme islamiste. Toutes ces thérapies où pendant longtemps, maintenant ça a changé, on fait l'inverse, mais pendant un temps on voulait aussi aider les gens qui avaient des mauvaises obsessions sexuelles, pédophilie, homosexualité, tout ce qu'on voudra. Hein. Bon, aujourd'hui, heureusement, la pédophilie reste encore anathème, mais le reste, maintenant, on dit non, tu n'as plus le droit de dire que ce n'est pas bien, il faut les laisser vivre, ces gens. Oui, il faut les laisser vivre. Mais le péché reste le péché. J'aimerais bien aussi, quand je parle avec des gens comme ça, j'aimerais bien pouvoir dire, tenir un autre langage. Mais le péché reste le péché. Mais Dieu sauve du péché. Alléluia. Et puis Paul, il dit, je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le... Voilà. Ça, c'est la situation. Et puis, dans le chapitre 8, Paul donne la Pentecôte qui est tombée sur lui. Il dit d'abord, qui me délivrera, misérable que je suis? Et au verset 8, au chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché. Et moi, je plaide, chers frères et sœurs, pour la délivrance de la loi du péché qui est à nous. Et ça, c'est Pentecôte qui l'apporte. Parce que Paul le dit ici, la loi était là, était bonne pour qu'on sache que c'est pas bien. C'est tout. Et une fois qu'on sait que c'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Notre monde constate aussi, ça c'est pas bien, alors ça change, ça évolue, parce que, finalement. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut constater, c'est pas bien, et puis il n'y a pas de solution. Notre monde n'a pas de solution au problème de la violence, de la haine. Nous avons une jeunesse qui est de plus en plus violente, pas parce qu'ils sont pires que nous, mais parce qu'ils ont un monde plus frustrant que nous l'avons eu. Quand je me compare, moi, avec... J'ai mon petit-fils le plus grand, il a 14 ans. Hein? Quand je vois comment lui, comment moi, je vivais quand j'avais 14 ans, il y a bien des choses d'ailleurs que je ne savais pas, que lui sait, parce que les téléphones montrent tout, et tout ça, on n'avait pas du tout le même monde. Et puis finalement, tout a évolué. Et on s'aperçoit, il y a une violence... Vous entendez ça partout, le corps enseignant ne sait plus quoi faire. Et là, maintenant, on essaie. Hein, le Premier ministre donne des nouvelles trucs sur pour les lycées, les collèges. Rien n'y changera, car la loi du péché, elle ne peut être délivrée que par la loi de l'Esprit. Alléluia. Et nous devons maintenant demander au Seigneur de nous délivrer de la loi du péché et de la mort qui est en nous pour nous remplir de la loi de l'Esprit et de vie. Et pour terminer, un incontournable dans ce changement que l'Esprit de Pentecôte va faire, si ce n'est pas déjà fait en chacune et chacun d'entre nous. 2 Corinthiens 5, 17, je suis désolé, j'ai pas donné tous les versets parce que j'en ai tellement des versets que, puis en plus je ne le donne pas toujours dans le même ordre, alors donc je préfère les citer au fur et à mesure pour que la technique fasse ce qu'elle peut pour me suivre. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ma sœur, mon frère, si ce n'est pas encore complètement réussi dans ta vie, ne perds pas espoir. Pentecôte est là pour te conduire là-dedans. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je l'ai déjà dit, mais je le fais exprès, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Alléluia. L'action du Saint-Esprit en nous. Je voudrais terminer, vous donner un petit témoignage que j'ai eu la semaine dernière, là, quand je suis rentré chez moi. Quand j'étais à Épinay-sur-Seine, j'avais un jeune chrétien de l'église, où j'avais été son pasteur en Normandie, il avait été nommé policier à Deuil-la-Barre. Et puis donc, il a demandé s'il pouvait venir habiter chez nous, à Épinay-sur-Seine. Donc, il est venu. Il a été 4 ans chez nous. Et quand il a dit à son commissaire, qui lui a dit « Tu habites où, toi ?» Il a dit « Ben, moi, j'habite à Épinay-sur-Seine. » Le commissaire a dit « Malheureux, ne rentre jamais en tenue de policier à la maison parce qu'ils vont te... C'est un terrain perdu, en plus rue d'Orgemont. Oh là 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 !» Bon. Et puis, il a fait ça, et puis ça s'est bien passé. Il n'a jamais eu de problème. Et là, maintenant, il est policier à Rouen. Et vous avez tous entendu qu'il y a une synagogue qui a été incendiée à Rouen. Et voilà que mon ami Jean-Philippe était le leader de l'équipe des 4 policiers qui ont tué le terroriste. Et il a raconté ce qui s'est passé. Alors, je vous dis un peu le contexte, parce que c'est... Mais il a raconté... J'ai même une photo, parce qu'il a finalement été... Il a été finalement, ça s'est très si bien passé que le ministre de l'Intérieur est allé le décorer. J'ai une photo, il est à la droite du ministre. Je lui ai dit bravo Jean-Philippe, policier à la droite du ministre, il faut le faire. Hein, bon. Et alors il a raconté, il a dit voilà, on est arrivé parce que quelqu'un avait appelé, puisque le terroriste avait jeté un cocktail Molotov dans cette synagogue, qui était une vieille synagogue, qui avait des belles peintures et tout ça, tout est détruit. Et. Il dit, on est arrivé, et lui, il est là avec un sabre de 50 cm. Et puis alors, bon, alors donc, il commence, c'est lui qui coordonnait tout. Et il a dit, tu sais, frère, j'ai senti une paix venir sur moi. J'ai pu tout bien organiser. Donc, il y en a deux policiers qui ont essayé de le plaquer, mais ils ont vu que c'était trop dangereux, donc ils se sont tenus un peu à distance. Puis lui, il était là, il relaie, puis il dit à l'autre, il dit, bon, c'est toi qui vas tirer. Prépare-toi, tire. Et le gars, au moment où il sort son pistolet, il était tétanisé. Il dit, et moi, j'étais dans la paix, et je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. Puis après, à un moment donné, j'ai dit aux deux autres, bon, écartez-vous, écartez-vous, il va tirer. Au moment où les autres sont écartés, le gars qui était tétanisé a repris ses esprits, et il a tiré, et puis malheureusement, le gars est mort. Ben, après, il a raconté, quand il se passe ça, il a dû aller faire un massage cardiaque aux terroristes, parce que sinon, il y avait non-assistance en personne en danger. Hein? Voilà. Et puis finalement, ça s'est passé sans problème et tout cela, mais il a dit, j'étais dans une paix que Dieu seul peut me donner. Alléluia. Voilà. Et j'aimerais dire, voilà, ça c'est en même temps une expérience de l'actualité. Comment, quand on a l'expérience de Pentecôte dans sa vie, une situation aussi dramatique, aussi terrible. Vous savez qu'il y a beaucoup de policiers qui font des erreurs à ce moment-là. Malheureusement, ils font des erreurs parce que c'est normal et on doit leur demander de respecter la loi. Ils représentent la loi, ils veulent que nous on la respecte, ils doivent la respecter aussi. Mais même si c'est pas toujours facile, c'est plus facile à dire pour moi ici. Hein. Mais là, le fait, il a dit, j'ai eu la paix de Dieu, j'ai tout pu bien coordonner. C'est pour ça qu'ils ont eu les félicitations de la hiérarchie et tout cela, parce que ça s'est très bien passé. Enfin, oui. Malheureusement, on est obligé de dire ça. C'est triste quand même ça, hein, mais bon. Finalement, c'était la paix de Dieu. Je voulais vous donner un petit exemple pour dire, même dans une situation aussi tendue, la paix de Dieu, de Pentecôte, a aidé cet homme à faire son travail. Ma sœur, mon frère, nous partons de ce lieu de culte avec cette certitude. Si on n'est pas encore arrivé, nous y arriverons. La paix, l'onction de Pentecôte, l'expérience de Pentecôte va faire de nous des hommes et des femmes qui ne seront plus esclaves de la vie, du péché en nous, de la péché de la mort, mais qui seront remplis de l'esprit de vie et de victoire. Et Jésus sur la croix a dépouillé toutes les dominations, les autorités, en les livrant publiquement un spectacle. Et en Christ, par la croix, nous avons la victoire. Que la victoire règne sur nous. Nous allons nous lever maintenant. Nous allons nous lever et peut-être demander au Seigneur de nous aider à... Allez. Seigneur Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs. Est-ce que je peux vous demander, pendant que je prie, de prier en langue, vous hein? Seigneur Jésus, je te prie maintenant pour mes frères et sœurs. Tu connais le combat de chacune et de chacun d'entre nous. Tu vois que nous avons des moments difficiles. Tu vois comme l'ennemi nous attaque par les mauvais esprits. Tu vois que notre chair qui est en nous, le péché qui est en nous, veut nous détruire. Mais Seigneur, nous te demandons, envoie sur nos vies une nouvelle Pentecôte. Remplis-nous à nouveau de l'onction de victoire. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.